Une bonne nouvelle d'après Luc, lecture suivie de l'évangile de Saint Luc dans une traduction transposition de Vincent-Paul Toccoli, salésien de Don Bosco.
Une étoile parmi les autres, c'est comme ça que je terminais mon dernier commentaire. Poussière d'étoile, cosmos. Ces paroles s'adressent à chacun d'entre nous dans ce qu'il a, j'allais dire, de cosmique. Les histoires des étoiles et notre propre histoire, voilà de quoi nous entretient Luc. Alors les épisodes précédents nous ont laissé sur cette magnifique et merveilleuse image de Salomon dans toute sa gloire. Nous le voyons, bien que nous ne l'ayons jamais vu, mais nous le voyons irradiant de toute la sagesse qu'on lui prête et qu'il a demandé à Yahvé, et en même temps de toute la gloire d'un monarque absolu qui a mis la paix aux frontières, et sous lequel, d'après les historiens, on se met à écrire la Bible pour la première fois. Dans cette énorme splendeur, où Salomon demande que l'on remonte avant lui, jusqu'à Abraham et même plus haut, jusqu'à la cosmogonie, l'anthropogonie, c'est-à-dire l'histoire de la création du cosmos, du monde, de l'univers et de la création de l'homme. Et déjà, les guerres salomoniennes font partie de cette histoire effective qu'il est en train de vivre. Nous aussi, nous entrons là-dedans. Eh bien, comme Salomon, qui ne pouvait pas se faire grandir d'un centimètre, nous sommes incapables non plus d'ajouter quoi que ce soit à notre existence. Observons donc avec lui les fleurs des champs. Comment Dieu les habille, elles qui poussent aujourd'hui et qu'on jettera demain au feu. Laissons-nous emporté par cette grande vague où Luc nous raconte l'histoire de Dieu et des hommes. Écoutons Jésus continuant à parler.
En posant les mains sur les épaules des disciples les plus proches de lui, il continua en souriant. « N'aie pas peur, petit troupeau. Votre Père est heureux de vous donner le royaume. » Sa voix s'éleva à nouveau. « Vendez vos biens, distribuez-les, faites-vous des bourses inusables, amassez au ciel des trésors inépuisables, qui ne craignent ni de la main des voleurs, ni de la gloutonnerie des mythes. » On tient toujours à ce qui nous tient. Soyez toujours pareil, sur le qui-vive, en éveil, comme si vous attendiez le maître qui revient d'une noce pour lui ouvrir dès qu'il aura frappé. Soyez tranquille. Si vous le recevez comme ça, je suis persuadé qu'il sera capable de se passer un tablier, de vous installer confortablement et de vous servir. Imaginez qu'il arrive encore plus tard, au petit jour même. Si vous l'avez entendu, vous serez à la fête. Mais comprenez bien que si le maître de maison avait su à quelle heure le cambrioleur allait venir, il ne l'aurait pas laissé faire. Vous aussi, tenez-vous prêts. Le Fils de l'homme ne s'annonce jamais. Simon-Pierre lui tira la manche. « Seigneur, cette histoire, c'est pour nous ou bien est-elle valable pour tous ?» Simon-Pierre, le gérant, loyal et intelligent, quand son patron l'a préposé à la surveillance des domestiques et du garde-manger, eh bien, il fait en sorte d'être trouvé à sa tâche, si le patron arrive à l'improviste. Ce dernier fera son bonheur en lui confiant la gestion de tout son avoir. Mais supposons que notre homme considère que son patron ne rentrera pas de sitôt et qu'il se mette à maltraiter tous les domestiques, à manger, à boire, à se saouler. Tu imagines, Simon-Pierre, la réaction du patron en arrivant à l'improviste? Il va te l'expulser avec perte et fracas. Une véritable excommunication. Quand on connaît la volonté du patron, mais qu'on ne s'y tient pas, on en prend pour son grade. D'un autre côté, quand on ignore la volonté du patron et que par conséquent on ne peut pas s'y tenir, les conséquences sont moins graves. Celui qui est favorisé, c'est qu'on lui demande beaucoup. Mais les lourdes responsabilités sont grevées d'exigences plus lourdes encore. Ça aussi, chacun le sait. Puis soudain un cri. « Le feu ! Je suis venu jeter les feux sur la terre ! Ah, comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé ! Un baptême, je dois recevoir un baptême, et qu'il me tarde tellement je souffre que ce jour arrive. Vous croyez que je suis venu apporter la paix sur la terre? Vous vous trompez, j'apporte la division. Désormais, si vous êtes cinq chez vous, vous allez être trois contre deux, deux contre trois, père contre fils, et fils contre père, mère contre fille, et fille contre mère, belle-mère contre bru, et bru contre belle-mère. Quand vous vous voyez un nuage se lever à l'orient, vous prévoyez la pluie. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous sentez souffler le vent du sud, vous dites qu'il va faire chaud, et vous ne vous trompez pas. Hypocrite, vous êtes capable de lire sur la terre et dans le ciel, alors pourquoi n'essayez-vous pas de comprendre ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi ne prenez-vous pas vous-même vos propres responsabilités? Si tu as un litige et qu'avec ton adversaire vous devez passer en jugement, essaye auparavant de t'arranger à l'amiable avec lui. Sinon, c'est le juge qui te livrera à l'huissier, qui te fera jeter en prison. Et tu t'en sortiras pas, je te jure, avant d'avoir craché ton dernier centime. Jésus parlait depuis un bon moment déjà. C'était de vigilance, au fond, qu'il entretenait ceux qui l'écoutaient. L'insouciance de ses contemporains le frappait. Il s'accommodait de tout, l'occupation romaine de plus en plus farouche, la cruauté veule de Pilate, la folle jalousie d'Hérode, la morgue méprisante des grands prêtres. Oui, ses compatriotes, ses co-religionnaires s'accommodaient de tout. Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées. Même Pierre et les autres lui avaient demandé si tout cela s'adressait aux autres ou à eux aussi. Mais Pierre, pas plus que les autres, ne comprenait ce langage qui appelait à la prise de conscience, là où la conscience n'était pas accoutumée à être sollicitée. Jésus était un petit peu découragé depuis qu'il sentait que personne n'était prêt à ce qu'il annonçait. Il puisait sa force au fond de sa conviction et de sa foi en sa mission. Mais qu'il est difficile d'avancer seul, incompris de ses proches et de ses amis, alors qu'on aurait tant besoin d'être suivi, sinon compris. C'est un feu que je suis venu allumer sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Les auditeurs trouvaient la formule belle, en hochant la tête, et ils attendaient la suite, comme au spectacle. Il se taisait maintenant. On se demandait s'il avait fini pour aujourd'hui. On était un peu déçus, il n'avait pas été aussi bon que d'habitude. Déjà ceux qui se trouvaient le plus loin se détournaient et s'éloignaient. Ceux des premiers rangs, cependant, ne bougeaient pas. Ils en voulaient encore. Alors, ils avaient été de nouveau servis. « Esprit perverti, vous savez reconnaître l'aspect du ciel et de la terre, et le temps présent. Comment? Pourquoi ne savez-vous pas le reconnaître ?» Les auditeurs avaient été épouvantés par la brusquerie de l'attaque. La voix de Jésus s'était rendue jusqu'à l'éraillement. Beaucoup de gens qui circulaient sans l'écouter précisément avaient tourné la tête dans sa direction, se demandant ce qu'il pouvait bien raconter. À ce moment, il y eut un mouvement dans la foule. Les gens s'approchèrent de lui et presque sur le même ton que lui, lui rapportèrent l'affaire de ce quelque Galiléen des compatriotes à lui que Pilate avait fait massacrer au moment même où ils accomplissaient leur sacrifice rituel en plein temple. Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus mauvais que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Bien sûr que non. Mais si vous-même vous ne changez pas de vie, vous n'aurez pas un sort plus enviable. Jésus se souvint de ce qui était arrivé à Jérusalem juste la semaine auparavant. Alors il renchérit. Et ces 18 personnes qui ont été écrasées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Non plus, bien sûr. Mais c'est le sort qui vous est réservé si vous ne voulez pas ouvrir les yeux à temps.
Si vous ne voulez pas ouvrir les yeux à temps, c'est ce qu'on appelle la prise de conscience que tous ces textes, dans leur splendeur et en même temps dans leur radicalité, nous invitent. Si vous ne voulez pas ouvrir les yeux à temps, il y a deux réactions toujours dans la vie, vous le savez bien. Ou on agit, ou on réagit. La réaction, c'est en général l'affaire de ceux qui ont peur. De ceux qui se disent « on verra bien quand ça arrivera ».« Wait and see », comme disent les Anglais. « Attendons, nous verrons bien ». Parce que prendre une décision de se convertir ou de convertir les choses suppose un risque, suppose d'abord une analyse de situation, suppose une prise de conscience de cette situation, suppose de tirer les conséquences de cette prise de conscience, et ensuite de se mettre en mesure de réaliser les réformes nécessaires. Mais tout ça, c'est un travail, un énorme travail. Puis ça part d'abord par la volonté, une volonté de devenir meilleur, dans le sens d'être plus efficace, de correspondre mieux à la réalité. Ça vaut dans toutes les analyses, qu'elles soient celles d'une situation financière, économique, commerciale, mais en même temps théorique, au sens d'une réflexion, qu'elle soit philosophique, théologique, esthétique. Ainsi, nous savons bien que nous avons des problèmes de vocation, mais ce n'est pas en se lamentant et en trouvant des expédients que nous résoudrons ce problème. Cette question est objective. La forme de vie des religieux, des prêtres, semble n'être plus celle qui correspond à ce qu'attendent légitimement toute une génération qui monte et qui sont les enfants de l'informatique, de l'image, du son, etc. Quand ouvrirons-nous les yeux? Sera-t-il trop tard? Quand nous les ouvrirons enfin et nous dirons « Mais enfin, on ne savait pas ?»
C'était une bonne nouvelle d'après Luc, une traduction et un commentaire de Vincent-Paul Toccoli. Daniel Chavy a prêté sa voix pour la lecture. Merci et à bientôt.